Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour une nouvelle saison de Sine qua non. Tout le monde a re-signé autour de cette table. Adrien.
Bonjour.
Florence.
Bonjour.
Et Jean-Pierre.
Bonjour.
En forme après oui. Cette longue pause.
Eh oui.
Bon, on a vu beaucoup de choses cet été, mais il y a déjà des films qui sont sortis de l'affiche. Donc là, on vous a concocté un petit programme des sorties de ces dernières semaines, hein, de la fin août à cette mi-septembre. Un petit programme éclectique, comme d'habitude, de 10 films. Donc je vous propose que l'on commence sans plus attendre avec le dernier Spike Lee, Black Landsman.
Vous êtes le premier flic noir dans cette ville. On pense que vous pourriez faire bouger les choses ici.
Allô ? Ron Stallworth à l'appareil.
À qui ai-je l'honneur ?
David Duke.
Le grand sorcier du Ku Klux Klan ? Le vrai David Duke ?
Seigneur, aux dernières nouvelles. En quoi puis-je vous aider ?
Eh bien,
vu que vous me posez la question, je hais les Noirs. Je hais les Juifs, les Mexicains, les Irlandais, les Italiens et les Chinois. Mais alors, que Dieu m'entende, je peux pas sentir ces sales nègres. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous ceux qui n'ont pas du pur sang arien blanc qui coule dans leurs veines.
Eh bien, ça fait plaisir de parler à
un vrai Américain blanc. Que Dieu bénisse notre Amérique blanche. Le Ku Klux Klan prépare une attaque.
Comment tu comptes mener cette enquête ?
J'ai déjà établi un contact par téléphone. On a besoin d'un agent blanc pour me remplacer quand on sera face à face.
T'es pour la race blanche, Ron ?
Oh putain, ouais. Ensemble, on formera un seul Ron Stallworth.
C'est faisable, ça ?
Quand on a un bon blanc, on peut tout faire.
Combien de fois déjà on a confié une enquête à un bleu ?
Ah ouais, c'est vrai. Jamais. Ok, deviens son pote. Faut te faire réinviter.
Alors vous faites quoi pour vous occuper ?
On fait brûler des croix, on défile... Ça sent la grosse année pour nous. T'en poses des questions, toi. Tu serais pas une taupe par hasard.
Black Landsman avec 3K au milieu que vous n'entendez pas dans ma prononciation, les 3K du Ku Klux Klan, qui fait partie du thème de ce nouveau film de Spike Lee, puisque c'est l'histoire d'une enquête, celle de Ron Stallworth, qui est un vrai flic, hein, qui a existé, qui a publié son histoire en 2014. Le film est d'ailleurs adapté de son livre. Donc, c'est un policier noir qui, dans les années 70, au Colorado Springs Police Department, a réussi à infiltrer le Ku Klux Klan. Donc, vous ne l'avez peut-être pas bien compris avec la bande-annonce, vu que vous n'avez pas l'image, mais c'est vrai que c'était assez ironique, puisque ce personnage est noir et arrive à rentrer dans ce clan très raciste, aidé évidemment d'un de ses collègues, Flip Zimmerman, qui lui est un policier blanc. Ils vont donc jouer tous les deux le personnage de Ron, l'un au téléphone, l'autre en vrai, quand il doit rencontrer les membres du clan. Et ils vont arriver à connaître les dates de manifestation du Ku Klux Klan et puis surtout les dates d'attentats prévues. Donc c'est une vraie enquête policière et c'est une réussite. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment dynamique, rythmé. C'est vraiment un bon polar et qui en plus aborde des thèmes sociaux, hein, la lutte des classes sociales, mais aussi la lutte des races aux États-Unis dans ces années 70, où la ségrégation finalement n'était pas bien loin et où il y avait encore beaucoup de racisme. Voilà, pour moi, c'est un grand oui pour ce Black Landsman de Spike Lee. Et Jean-Pierre, vas-tu aller dans mon sens.
Bien sûr, oui, j'ai même pas grand-chose à ajouter, parce qu'une fois qu'on a entendu l'extrait de bande-annonce qu'on a passé, plus tout ce que tu en as dit, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Moi, ça m'a fait penser un peu au premier film de Costa Gavras, c'est-à-dire un film très directement politique, mais filmé de manière effectivement très classique, avec un bon suspense, avec un petit peu d'humour. Donc, tout ce qu'on aime, quoi. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf que là, Spike Lee, qui avait un peu faibli dans ses films plus récents, avant celui-là, a mis quelques extraits de Naissance d'une Nation, de Griffiths, hein, pour illustrer son propos. Oui. Il a mis un discours de Trump, n'en disons pas plus. Et puis, il y a toute cette ambiance qui est très bien reconstituée. Puis, la participation d'Harry Belafonte, qui est bien vieux, mais que, je crois qu'il a 88 ans, mais il a tenu à participer au film. On voit un clone d'Angela Davis, la grande passionnaria des Black Panthers. Évidemment, c'est pas elle, c'est joué par une actrice. Bref, c'est très bien, quoi. Il n'y a rien à dire, j'ai rien à enlever de ce film, à recommander très très chaudement.
Et puis, un petit mot sur le casting, puisque j'ai oublié de le mentionner, mais le rôle principal est joué par John Davis Washington, le fils de Denzel.
Tout à fait.
Et à ses côtés, Adam Driver, moi, que j'aime beaucoup, qui a une espèce de flegme et qui est toujours... Qui joue un peu toujours de cette manière, c'est vrai, mais...
Peut-être un peu trop, mais enfin, bon, là, dans ce film-là...
Détaché, un peu ironique.
Ça allait, oui, ça allait.
Ça allait bien pour le rôle. Et puis, sachez aussi que le film a remporté le Grand Prix au dernier Festival de Cannes, hein, où Spike Lee n'avait pas remporté grand-chose depuis longtemps. Donc, il fait un bon retour, là, et vous pouvez aller voir Black Landsman au pâté ou au club. On enchaîne avec un film français, cette fois, dans un genre assez différent, vous allez voir. Il s'agit de Guy.
Certains chanteurs font partie de nous.
Bonjour. Bonjour.
Moi, quand j'entends Guy Jamais, je pense à ma mère. Elle l'adorait. Et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jamais était mon père.
C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous.
C'est une fan.
Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup.
Papa. Hé, hey, papa.
Vous vous sentez un peu dépassé des fois ou pas?
Dépassé?
Ouais.
Non.
Je crois pas que tu deviens artiste. Je crois que c'est un état d'âme. Moi, je sais pas si j'ai du talent, mais je sais que je suis un artiste. En tout cas, l'esprit, l'état d'âme, c'est sûr. C'est une colère.
Te souviens-tu de notre première fois?
Vous avez des enfants?
Oui, j'ai un fils que j'ai eu avec Anne-Marie.
Vous avez qu'un fils, quoi?
J'ai qu'un fils, c'est déjà pas mal, non?
Hein, c'est pas mal.
Je vois ce que tu filmes, je suis pas stupide. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux, dont tu n'aimes rien et que t'as même pas envie de découvrir. C'est ce qu'il y a de pire. Hein.
Guy Jamais, c'est ça.
Avez-vous vraiment kiffé, Guy Jamais?
En tout cas, j'ai vécu.
Je suis ravi d'accueillir Guy Jamais.
Merci.
J'ai vieilli. Mais je n'ai pas changé, on ne change pas. On se prend des à-coups.
Bon, ça va saigner autour de cette table parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce film. Jean-Pierre et moi, nous sommes les deux seuls à l'avoir vu. C'est donc Guy d'Alex Lutz, pour ceux qui ne verraient pas qui c'est. Il s'est fait connaître sur Canal+, avec les sketchs Catherine et Liliane. Il est aussi acteur et Guy est son deuxième film en tant que réalisateur après Le Talent de mes amis en 2015. Donc là, il est réalisateur et acteur puisque c'est lui qui interprète le personnage principal, le personnage de Guy, ce chanteur sur le retour, cette espèce de Franck Michael ou d'Herbert Léonard qui a eu son succès dans les années 60-70 et puis qui continue des tournées en faisant des albums de reprise, un personnage qui peut sembler un peu pathétique, dont on découvre la vie à travers le documentaire qu'en fait un jeune homme, un journaliste, qui a appris que c'était son père. Alors, on ne saura jamais vraiment si c'est vrai ou non. En tout cas, c'est ce que lui a confié sa mère. Peu importe que ce soit vrai ou non, puisque c'est le prétexte de départ à son reportage. Le film est donc un faux reportage, mais qui a vraiment l'allure d'un vrai reportage qui serait fait sur un chanteur. Et... moi, il m'a beaucoup touchée, ce film, alors que c'est vrai que quand on le résume, on se dit un faux reportage sur un chanteur, sur le retour, qui chante des chansons complètement niaises. A priori, il y a tout pour que ça nous déplaise. Eh bien, moi, allez savoir pourquoi ce personnage, qui pourrait même sembler antipathique, m'a plu. J'ai été touchée, même par les petites musiques un petit peu niaises, comme le dadoudidouda que vous avez pu entendre dans la bande-annonce. Je me suis laissée bercer. J'ai trouvé que le personnage avait des aspects touchants, notamment quand il se confie sur son passé, sur ses anciennes relations amoureuses, sur la relation actuelle qu'il a avec son vrai fils, enfin son fils légitime. Et je me suis laissée plonger dans cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis ressortie très, très enthousiaste de ce film. Allez, Jean-Pierre, vas-y. Tout ce que je viens de dire.
Non, mais pas du tout. Mais ce que tu viens de dire peut tout à fait se retourner contre ce film. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi il a fait ce film. À part la performance d'acteur, de maquillage, il louche un peu du côté de Belmondo avec les cheveux très blancs, ouais, comme ça. La bouche un peu tordue, la voix comme ça qui fripe. On pense qu'il a eu un AVC parce qu'il le dit de manière très cryptée un très court moment. Oui. Mais à part cette performance d'acteur, je ne comprends pas parce que le personnage n'a aucun intérêt. Il dit que des banalités, il est effectivement assez antipathique. Ses chansons... Moi, je dirais entre Claude François et Hervé Villard, mais enfin, comme on veut, oui. Ça ne m'intéresse pas du tout, ça ne me touche pas, ce n'est pas mon époque. Donc, qu'est-ce qui reste dans ce film ? Il y a quelques moments comme ça de vérité, mais quand c'est la vérité, c'est que c'est des vrais. Quand on le voit répéter avec Dany, qui est très vieille maintenant, et puis avec Julien Clerc, là, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on sent qu'il y a une vérité. Mais autrement, quand on le voit en concert... Bon, il chante des chansons banales, il les a, je crois, écrites lui-même, d'ailleurs, oui. Et il chante lui-même,
ce qui
est très bien, je veux dire, la performance d'acteur est extraordinaire, mais pour le reste, je vois aucun intérêt, ni dans l'époque, ni dans ce personnage, ni dans ce qu'il dit, ni dans ce qu'il chante, je suis resté totalement à l'extérieur, je me suis même vraiment emmerdé vers la fin, quoi. Vers le milieu, même, allez, disons.
C'est bien, vous avez vraiment le pour et le contre.
Le pour et le contre absolu, là, ouais, tout à fait. Ouais.
Et je pense que, alors qu'on en dit la même chose, je pense qu'il y a une histoire de moment aussi, et on tombe dedans ou non, selon le moment, selon sa sensibilité.
Ça reste très extérieur, et même ce dont on a beaucoup parlé, que celui qui l'interroge est son fils, c'est une indication qu'on vous donne, mais c'est jamais incarné, et ça n'influe pas sur le déroulement de l'action, si on peut dire qu'il y a une action.
Alors, disons qu'on quand même que dans le reportage, on sent le regard très curieux du réalisateur du reportage, puisqu'il est censé être à la recherche de son père.
On sent qu'il
essaye de cerner le personnage, et pas que l'artiste, aussi le personnage dans sa vie privée, puisqu'on le voit dans sa maison en Provence, avec ses chevaux, avec sa nouvelle femme, incarnée par Pascal Arbillot.
Comme c'est touchant, oui.
Enfin bref, j'ai pas raconter tous les détails, mais en tout cas, je vous ai donné envie et plus convaincu que Jean-Pierre, vous pouvez encore le voir au Méliès. C'est donc Guy d'Alex Lutz.
Je l'ai mis en Catherine quand même, dont j'étais tombé amoureux, sans savoir que c'était un homme. Bon, mais c'est un...
Bon, allez, on va changer de genre avec un film sud-coréen. Cette fois, il s'agit de Burning.
여긴 나의 하나뿐인 친구 이종수.
벤이라고 합니다.
혹시 무슨 일 하시는지 물어봐도 돼요?
간단히 말하면 그냥 노는 거예요.
저 사람이 너 왜 만나는 것 같아? 그거에 대해서 생각해 본 적 있어?
Vous avez tout compris, n'est-ce pas ? Donc, je vous fais un petit résumé. Donc, c'était la bande-annonce de Burning de Lee Chang-dong, réalisateur sud-coréen qui commence à être bien connu en France. Je vous cite les derniers en date, Poetry en 2010 ou encore Secret Sunshine en 2007, qui ont bien été diffusés en France. Donc, avec Burning, il adapte la nouvelle Les Granges Brûlées d'Haruki Murakami. Donc, comment je vais vous résumer ça sans trop vous en dire ? Deux jeunes gens se rencontrent à Séoul. Ils se rendent compte qu'ils se connaissent depuis leur enfance, puisqu'ils étaient dans le même village. Lui, son père, est agriculteur. Elle habitait également dans ce village. Ils se sont côtoyés à l'école. Assez rapidement, ils nouent une relation amoureuse. Lui est un garçon assez taciturne, qui rêve de devenir écrivain, il est assez introverti. Elle est beaucoup plus extravertie, un peu fofolle même. Elle prend des cours de pantomime, enfin, elle est un peu artiste dans l'âme. Donc voilà, ils nouent une relation amoureuse, du moins ils couchent ensemble, jusqu'à ce qu'elle parte en Afrique et qu'elle revienne avec un nouvel amoureux, absolument sans prévenir l'ancien, hein, le garçon de départ. Ce nouvel amoureux, qui est comparé à Gatsby le Magnifique, est effectivement quelqu'un de très riche, mais d'un peu mystérieux, incarné par Steven Yeun, pour ceux qui connaissent la série The Walking Dead, c'en est l'un des acteurs. Et puis là, se noue une relation assez étrange entre les trois jeunes gens. On n'est pas dans le trio amoureux, mais presque. En tout cas, donc le jeune homme du départ, dont j'ai perdu le prénom, mais c'est pas grave, ne comprend pas bien ce qu'il fait au milieu des deux autres, du nouveau couple qui vient de se former. Et une atmosphère de mystère s'installe. Voilà, je vais m'arrêter là dans le résumé. Je ne vais pas vous en dire plus, on verra si Adrien veut développer. En tout cas, je pense que ça va encore saigner autour de cette table, parce que alors, j'ai vraiment détesté ce film. Je me suis ennuyée pendant une heure et demie. Et ensuite, pendant une heure, puisqu'il dure deux heures et demie, pendant une heure, il y a un mystère qui arrive, qui se noue. Là, on se dit, ah oui, quand même, il y a quelque chose. On se demande où tout ça va aller. Et jusqu'à la fin, on se dit, ah bon, d'accord, tout ça pour ça. Je n'en dis pas plus. Donc, au final, voilà, moi, ça ne m'a pas plu. En plus, j'ai trouvé que le Séoul qui était montré était absolument très moche. Les personnages n'étaient absolument pas attachants. Entre celui qui est introverti, celui qui fait des tonnes de mystères et qui est assez antipathique avec son argent qu'il dépense sous les yeux des autres. Et puis, la fofolle au milieu dont on ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Adrien.
Bah, c'est un film que j'ai trouvé magnifique, évidemment. Du coup, ben, c'est normal que ça déroute, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on voit et on ne sait jamais où est la vérité. En fait, je pense que c'est un film sur le mensonge et enfin, voilà, sur la perception des choses. Et en fait, on n'est jamais sûr de ce qu'on voit. Du coup, je connais plein de gens qui ont vu ce film et personne en a la même interprétation. Donc, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu l'as vu, mais peut-être que si tu l'avais vu, tu pourrais me dire si ma théorie est juste. Mais tout le long du film, le jeune paysan qui est le héros dit « je suis écrivain, je suis écrivain ». Et pourtant, on ne le voit jamais écrire dans le film. Mais pour moi, en fait, tout le film est faux. Et c'est un écrivain au travail qui ne fait qu'observer, qu'enquêter sur ce qu'il va écrire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est son roman en train de se faire. Et il y a même des plans, on n'est pas sûr de les avoir vus. C'est vraiment très beau. C'est très bien monté, très bien joué. La direction d'acteur est fabuleuse. Et je comprends qu'on puisse être sur le côté. Mais moi, le Séoul qui est filmé, je le trouve très, très beau. Je trouve ça justement très beau que les prolos ne soient pas des héros magnifiques, mais qu'ils aient plein de défauts, qu'ils aient des têtes un peu de droupies et qu'ils soient même assez antipathiques, parce que le héros est une sacrée tête à claque. Quoi, il y a tout qui lui arrive et il ne fait rien pour que ça change. Et même, demande même pas on se demande s'il provoque pas les situations pour pouvoir écrire son roman. Bref, c'est un film que j'ai trouvé génial. Les plans sont magnifiques, le montage est exceptionnel. Il y a une scène de danse africaine dans un bar à un moment qui s'enchaîne par une scène de boîte de nuit pour finir au réveil au petit matin. C'est super, il y a des fondues au noir merveilleuses. Bref, je vous conseille d'aller voir Burning, qui est génial et qui marche énormément. Il y a beaucoup de public pour ce film et c'est très bien. Voilà. Et c'est très bien que ça divise aussi. Hein.
Merci Adrien, on va rester sur cette note positive. Parce que notre but est quand même de vous donner envie d'aller voir les films, donc je ne redirai rien après tout cela. Et si Adrien vous a convaincu, eh bien Burning de Lee Chang-dong est encore à l'affiche au club. Allez, on change encore de genre, je vous avais promis un programme éclectique, on va maintenant parler d'un documentaire, il s'agit d'Un nouveau jour sur Terre.
La Terre, notre maison, la planète chanceuse, la danse magique entre la Terre et le Soleil. L'ingrédient essentiel à la vie.
Retour sur Terre, réalisé par Peter Weber, Richard Dale et Ling Xinfan, puisque c'est une coproduction britannique et chinoise, une fois n'est pas coutume. Peut-être aviez-vous vu Un jour sur Terre, qui était déjà un documentaire produit par la BBC et qui s'intéressait à la planète, à la faune, la flore, qui était sorti en 2007. Eh bien, il s'agit d'un nouveau projet sur le même thème, mais d'où le titre « Un nouveau jour sur Terre ». Au lieu de s'intéresser au cycle d'une année, les réalisateurs se sont intéressés au cycle de la journée, donc le jour et la nuit. Et le temps de 24 heures, ils nous montrent différents animaux dans différents milieux et leur cycle naturel ainsi que le cycle de la nature, donc hein, tout simplement. Les images sont évidemment superbes, d'autant qu'elles ont été filmées avec des nouvelles techniques. Donc on arrive vraiment à voir des choses très petites, hein, des insectes. Alors c'est pas nouveau, mais là apparemment il y a des techniques qui sont quand même novatrices. On suit des narvals par exemple dans l'océan, on suit des ours polaires, on suit des espèces assez particulières, des koalas. Enfin, j'ai trouvé très belle d'ailleurs la séquence des koalas. J'ai trouvé aussi très belle la séquence des girafes qui se battent en duel, un petit peu à la manière d'un western, parce que vous avez une musique de fond et puis une manière aussi de montrer les choses au ralenti, par exemple, ou qui, non pas qui scénarise, mais qui met en scène vraiment ces animaux. Donc voilà, des images superbes, une voix off qui commente. Alors en anglais, c'est Robert Redford, en français, c'est Lambert Wilson, et en chinois, c'est Jackie Chan. Donc moi, je l'ai vu en VF, avec la voix de Lambert Wilson, que je trouve très belle en plus. Donc moi, en tout cas, j'ai trouvé ça beau, je me suis laissée porter. Il n'y a rien de révolutionnaire, hein, c'est vraiment un enchaînement d'images d'animaux. Mais je trouve qu'on se laisse porter pendant une heure et demie et qu'on en prend plein les yeux. Florence.
Ben, tout à fait, hein. Moi je te suis là-dessus. Et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait une très bonne fluidité entre les différentes scènes pour passer à la fois du côté arctique ou à l'Afrique. Ou... Ouais. Et ils arrivent à faire des belles transitions. Ça c'était vraiment voilà, très très fluide. Donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était intéressant le fait de suivre le rythme du soleil parce qu'en effet on voit un peu les spécificités de chaque animal à chaque moment. Après, bon, le petit problème, mais c'est un peu normal aussi, c'est que comme ils ont voulu montrer beaucoup d'espèces, rien n'est très détaillé. Mais en même c'est temps, vrai. Ça peut donner envie de creuser sur tel ou tel animal et de rechercher par soi-même ensuite. Mais donc ça, j'ai trouvé que ça donnait un très bon aperçu. En effet, j'ai trouvé que la voix de Lambert Wilson était très agréable également tout au long du film pour nous aiguiller. Le seul petit point négatif, j'ai trouvé, c'était des fois les bruitages qu'ils ont rajoutés pour donner un effet comique à différentes scènes des animaux. Je pense que c'était pas forcément nécessaire. À mon avis, c'était plus pour le public enfant ou je sais pas trop. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était trop.
Oui, c'est vrai que c'est un film qui est vendu pour toute la famille, donc...
Mais en tout cas, voilà, vraiment superbe, de très très belles images. Enfin, moi, je le conseille.
Jean-Pierre, un nouveau
jour sur Terre. Ah, bien sûr, il faut le conseiller, il faut y aller absolument. À une époque où les animaux disparaissent, hein, où il y a 30% des oiseaux qui ont disparu depuis 30 ans et 80% des insectes volants. Bref, c'est un presque, je dirais pas que c'est un métrage militant, mais en tout cas, il vous donne envie de voir ces bêtes qu'on verra jamais parce qu'on n'ira pas sur place. Et il vaut mieux parce que le tourisme les tue aussi. Et ça donne envie de les protéger, et voilà, quoi. Alors moi, je suis plus sceptique sur, effectivement, le montage, sur le bruitage, sur la voix de Lambert Wilson que vous aimez tant, mais s'il fermait sa gueule, ça serait aussi bien. Moi, j'aurais préféré que le film ne soit pas du tout commenté.
C'était un peu
parce que c'est bête, ouais. On les voit, quoi, voilà. Alors, par rapport au premier métrage, il est un peu différent. C'est vrai que ça va un peu vite, alors que le premier métrage, il y avait une très, très longue séquence sur les ours blancs, qui eux aussi disparaissent, et puis une très longue séquence sur la transhumance des éléphants, qui parcourent des au moins 300 km pour trouver une mare pour boire. Mais là, peu importe, quoi.
Il n'y avait que trois espèces montrées dans le premier long métrage.
Alors que là, il y en a une quinzaine, mais il y a des choses magnifiques, comme le je sais pas, moi, le manchot à jugulaire, là, qui est un espèce de singe un petit peu bizarre, et puis la parade des éphémères qui ne vivent qu'un jour au-dessus d'un étang. Bref, tout est beau, on a envie de le voir et de le revoir, mais c'est la qualité comme ça de la BBC, même si c'est une coproduction avec la Chine, et des films sur les animaux, grands, petits, le macrocosme, le microcosme. La BBC en a tourné des tas que je vois et que je revois à la télé. Voilà, pour m'en mettre plein les yeux. Mais là, effectivement, si on n'en avait vu qu'un, il faut le voir. Et puis, ça donne envie de voir les autres, quoi.
Je reviens juste rapidement sur la voix off. Peut-être que parfois, elle est un peu pseudo-poétique.
Très emphatique.
Et que,
oui, c'est
un peu trop et qu'on n'en aurait pas eu besoin. Mmh. Mais moi, j'avoue qu'il y a des espèces que je n'aurais pas identifiées toute seule. Donc, d'un point de vue
purement pédagogique, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal d'avoir
un petit commentaire.
Bien sûr.
Voilà. En tout cas, c'est Un nouveau jour sur Terre, documentaire que vous pouvez voir au Pathé et Chirol ou au Sirex. Et on enchaîne avec un film sur les quartiers marseillais. Il s'agit de Sherazade de Jean-Bernard Marlin.
Libérable, libérable, liberta!
À bientôt.
Comment ça, à bientôt?
On va au foyer, allez, viens.
Alors, les mecs, avec 4 ans, de quoi?
Alors, ah, on
ah, c'est pour toi, ça, frère.
Arrête, c'est une grosse cougar, elle.
Cadeau.
Elle.
Attends, mais je crois que je la connais, elle. Tu t'appelles Sherazade ou pas?
Ouais, je m'appelle Sherazade.
Je te rappelle pas.
Pourquoi les éducateurs, ils ont écrit que t'étais carrément partie pendant une journée? Si on t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés.
Ouais, en fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes.
Ouh là là, tu sais de me la faire à l'envers ou quoi?
Elle 50 l'amour et 30 la pipe. Tu es avec moi, s'il te plaît?
Tu es devenue folle, quoi? J'ai jamais fait ça, moi.
250 ou rien?
Y'a pas de monnaie, les gars. Vas-y, ne touche pas comme ça, tu as touché plein de garçons.
J'ai cru que tu rentrais en prison, tu allais comprendre un peu. Mon frère, tu es sorti que d'avoir encore plus con qu'avant.
T'as vu ce terrain? Maintenant, c'est à nous.
Quoi, tu es amoureux, dis la vérité.
Tu te délires ou quoi?
Eh ben, ça va, ça me dire, ça te fait rien si j'y vais.
Tu viens chez moi, tu fais le bordel pour une pute, gros. Qu'est-ce que tu es devenu fou, quoi, ça?
Tu vas témoigner contre tes amis?
Tu vas pas faire ça quand même, ça connaît pas de balancement.
Jamais, je t'ai dit, jamais t'agis comme un homme, toi, en vrai. Juste ça, mets-toi à sa place. Sois là pour elle.
Sherazade, c'est le premier long métrage de Jean-Bernard Marlin qui a réalisé avant des courts métrages. Il s'est inspiré d'un fait divers survenu à Marseille en 2013. Un jeune garçon de 16 ans avait été arrêté, il était en fugue et on a découvert qu'il vivait avec deux prostituées de son âge et qu'ils avaient ensemble survécu grâce à l'argent de la prostitution. Mais eux décrivaient leur histoire comme une histoire d'amour. Donc voilà de quoi s'est inspiré Jean-Bernard Marlin. C'est exactement ce qu'on retrouve dans Sherazade, hein, dans lequel Zachary, le héros, vient de sortir de prison ou de maison de correction. Je ne sais plus comment on appelle ça pour les mineurs. Sa mère le rejette, enfin en tout cas il ne peut pas retourner vivre avec elle, il est placé dans un foyer, donc il est vraiment en rébellion contre tout le monde, contre tous les adultes, et il va rencontrer Sherazade, jeune fille de son âge qui se prostitue donc dans un quartier défavorisé de Marseille. Pour les interpréter, Jean-Bernard Marlin a fait un casting sauvage et il a trouvé des acteurs non professionnels, hein, Dylan Robert, Kenza Fortas pour les deux protagonistes principaux, qui sont très bien, criants de vérité. Donc voilà, il y a cette ambiance du Marseille populaire que moi j'aime beaucoup. On est à la fois dans le film social, un petit peu comme La tête haute d'Emmanuel Berco, avec ce jeune homme qui est suivi par un juge, par des éducateurs. Et puis on est aussi à la fois dans le film de banlieue et de gangster avec ses règlements de compte. Là je pense à Chouf, assez récent, qui montrait des règlements de compte à Marseille justement entre des bandes de jeunes. Donc voilà, pour moi c'est une réussite dans son genre. Je comprends qu'on n'aime pas ce genre, je comprends qu'on puisse être agacé par l'argot marseillais de ces jeunes. Mais moi, ils m'ont beaucoup touchée et j'ai trouvé ça très beau finalement qu'une histoire comme ça qui part de la prostitution puisse devenir une histoire d'amour et une belle histoire d'amour en plus à laquelle on croit et dont on comprend comment elle a pu se nouer. Pourquoi Zach ne se voit pas comme un proxénète et Sherazade comme une prostituée. C'est assez original et la réalisation est en plus très belle. Mais je vais laisser Adrien poursuivre parce que j'ai l'impression qu'il va être d'accord avec moi cette fois.
Oui, oui, c'est un film exceptionnel. Il faut absolument aller le voir. C'est magnifique. Bon, alors, petite anecdote personnelle. L'endroit où il tapine en face la piscine Valier, c'est là où j'ai passé ma jeunesse au stade Valier. Du coup, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Ça m'a beaucoup touché. Mais au-delà de la nostalgie, c'est vraiment un film hyper bien écrit. Les acteurs sont merveilleux, notamment le trio de garçons sont Zachary, Riyad et Mehdi. Donc Mehdi qui est le parrain de la mafia qui reçoit dans son salon de coiffure ou dans son bar Zachary et qui essaye tout le temps de le rattraper. Et Zachary c'est vraiment franchement une tête de con et pourtant on s'attache à lui parce que tout le monde lui dit fais attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et il n'écoute pas, il en fait que qu'à sa tête par amour. Et c'est un film où moi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de scènes comme tu dis avec les éduques, avec... avec les avocats ou qu'il y ait des scènes d'amour entre lui et Sherazade sur la plage, mais non, en fait c'est un film sans aucune respiration. Moi j'avais l'impression de regarder un film de John McTiernan mais réalisé par Abdelatif Kechiche, du coup c'était assez fou. Mais c'est vrai parce qu'il utilise souvent l'effet de lumière à Marseille hyper long qu'il y a dans Piège de Cristal là, quand les flashs se projettent les uns sur les autres, il y a tout le temps de l'action, il y a un rebondissement toutes les scènes et ils ont aucune scène de répit. En fait ils n'ont pas de la place pour leur amour dans la société et c'est énorme comme film, il faut vraiment y aller, c'est très enthousiasmant, les acteurs sont magnifiques, la fin que je ne révélerai pas est juste géniale et pourtant dès le premier plan on sait que ça va finir comme ça quoi, parce que vous l'avez entendu dans la bande annonce, le policier lui dit on se reverra bientôt, il a dit ouais tu parles et voilà donc
je m'attendais pas forcément à la fin moi donc...
c'est très très beau c'est vraiment magnifique, c'est plein d'énergie, plein de vie, c'est superbe quoi, il faut y aller.
Bon bah vous voyez on est une fois n'est pas coutume, on est d'accord Adrien et moi.
Je me demande si c'est réaliste ou pas en fait, parce qu'à un moment les choix de Zachary ne vont pas peut-être pas paraître réalistes, mais bon une m'a répondu que par amour on serait prêt à tout, du coup voilà c'est très beau.
Moi je pense que c'est assez réaliste compte tenu que c'est en plus inspiré d'un fait divers. En tout cas, même si ça ne l'est pas, ça nous a plu et on vous recommande d'y aller, c'est Sherazade de Jean-Bernard Marlin qui passe au Pathé et au Méliès. On enchaîne avec un film japonais, il s'agit du nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, Invasion.
どうしたの？この間のちょっと精神的に不安定みたいなんだ。私のことわかる。本当に家族という概念が根こそぎ失われてるようなんです。実は似たような症状が何件も報告されてるんです。世界中で。誰かがそれを集めてるんでしょうか？概念を。プライドはありますから。もらいます。
侵略が始まるんですか？人間の概念を集めてますよね。ああ、どうだろう。決めるのは僕じゃないし。悦子さんはどうしてそんなにまでして山木君のことを救おうとするんですか？彼のことが好きだから。好き？
Alors, petite traduction de cette bande-annonce d'invasion de Kiyoshi Kurosawa, que je n'ai pas vue, mais qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Etsuko, qui est étonnée parce qu'elle réalise qu'autour d'elle, tous les humains perdent leurs émotions. Voilà ce que j'ai pu lire sur ce film que j'ai boycotté parce que j'avoue que je suis un petit peu hermétique au style de Kiyoshi Kurosawa. Mais je vais laisser Jean-Pierre et Florence vous le présenter. Qui veut commencer ? Florence, Jean-Pierre.
Alors ça commence mal parce que moi j'ai vraiment détesté ce film qui est d'une nullité absolue. Ça dure plus de 2 heures, il se passe rien. Alors au début on pense que ça peut être une espèce de version de Body Snatcher, hein, l'invasion des profanateurs de sépultures, puisqu'effectivement il y a une intelligence ou une présence, on ne sait pas quoi, extraterrestre qui capte le cerveau. C'est pas de toute la population, c'est 3 ou 4 personnes, hein, dont le médecin-chef de l'hôpital où travaille le mari de K.O., qui s'appelle le docteur Maccabé, c'est assez rigolo d'ailleurs, c'est la seule chose qui est rigolote dans le film d'ailleurs, mais il se passe vraiment rien quoi, ça bavarde, on ne sait pas ce que veulent les extraterrestres, de temps en temps il y a un petit, comme s'il y avait un tremblement de terre avec une musique comme ça qui porte sur les nerfs, à la fin le personnage capté par les extraterrestres meurt, bon on ne sait pas trop pourquoi, K.O. et son mari s'enlacent et elle dit l'invasion a commencé. fondu au noir, le film est fini.
Merci Jean-Pierre.
T'as rien vu. T'as rien vu. Non, non, mais bon, c'était pour décourager les gens d'y aller, parce que là, vraiment, c'est 9 euros de foutu en l'air, hein, vraiment.
Jean-Pierre reprend cette nouvelle saison de Ciné Quanon très fort. Il va falloir qu'on le fasse, ce petit bip bip.
Oui, le bip anti-spoil.
Anti-spoil.
Oh, mais vous m'aurez pas comme ça. Non, 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 non.
Florence.
Bon, alors déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait le pari de faire un film de science-fiction sans effets spéciaux. Donc, c'est quand même assez audacieux. Ça veut dire qu'ils ont dû tout faire par tout par le scénario, en fait. Après, ça se passe dans la société qui.
Le quoi
très...
Pardon, je suis content d'avoir coupé.
On a cette société japonaise qui est très guindée. Et là. Justement, ils parlent du fait de la perte des émotions, en effet, mais déjà, à la base, en fait, ils en montrent très peu. Quand on voit le couple, par exemple, moi, je me demandais s'ils étaient proches de la rupture ou autre, tellement il n'y avait aucun signe d'affection, rien de chaleureux entre eux. Alors que non, en fait, par la suite, on va se rendre compte qu'ils s'aiment énormément, mais rien n'est démontré. Justement, au fil du film, au contact des extraterrestres, c'est comme s'ils se rendaient compte un peu de l'importance des liens et on voit qu'ils montrent, qu'ils s'humanisent, justement. En même temps que l'extraterrestre, donc, ce macabé. Mais voilà, mais j'ai trouvé que c'était... en effet, ça fait comme un grand teaser de 2h20, où on attend de voir un peu ce qui va se passer ensuite. Donc c'est vrai que moi, je suis quand même restée sur ma faim, parce qu'il y a ces extraterrestres qui préparent... En fait, c'est pas invasion, ça devrait être avant l'invasion, parce qu'on prépare l'invasion, là. Et justement, on voit tout ce qui se fait avant, en coulisses, ce macabé qui est donc un médecin, et qui justement est là pour étudier également la population humaine, etc. Ça, c'était intéressant. Mais bon, ça aurait été bien que ça aille peut-être un petit peu plus loin.
Eh bien, vous saurez la suite dans Invasion 2, le retour, voilà. Que Jean-Pierre ne manquera pas d'aller voir.
Non, non, bien sûr. Ce qu'on peut dire quand même, c'est une version condensée d'une série télé de 5 épisodes. On peut se demander en 5 heures ce qu'il a bien pu mettre dans ce film. Parce que
télé.
Voilà, ouais. En 2 heures.
Bon,
ça
je ne sens pas non plus un enthousiasme débordant chez Florence.
Non.
Mais si vous avez quand même envie d'aller voir Invasion de Kiyoshi Kurosawa, sachez qu'il passe encore au Méliès. On enchaîne encore avec un film d'une autre nationalité, franco-marocain et qatarien aussi d'ailleurs. C'est Sophia de Meryem Bembarek.
Ça va?
J'ai juste un peu mal au ventre.
Je crois que t'es enceinte.
Attenez la carte.
Zrbna ou Sina les papiers.
Attenez la carte, Rajak.
Il est pas là. Il est en voyage. On veut pas trouver une solution?
Ça va?
J'ai un problème.
Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement.
On n'a pas d'autre option.
C'est compliqué. On nous laisse jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père.
Tu connais le nom du père, n'est-ce pas?
Tes parents sont anéantis. Tu les as humiliés.
Non, t'es oublié, je connais pas.
تيقولوا بلي هاد التربيه ولدك
شفتها مره وحده راه ما قصاش
جايين باش تصيدونا
دابا في حالتي الا كان عمر هو اللي اغتصبك غادي يحكموا عليه بخمس سنين ديال الحبس وفي الحاله الثانيه الا هو ما اغتصب غندير كل ما في جهدي باش يخفوا عليكم الحكم بجوج
سي فو بلي vous allez faire quelque chose
عندك ما نشتغفي
فرصة لك باش تولي راجل
Sophia, donc c'est le premier film de Meryem Bembarek, film qui se passe à Casablanca. Je pense que vous avez compris l'histoire avec le début de la bande-annonce. Donc il faut savoir qu'au Maroc, les relations sexuelles hors mariage sont interdites par la loi et qu'elles sont sévèrement punies pour les hommes comme pour les femmes. Ce n'est pas uniquement pour les femmes. Donc Meryem Bembarek voulait montrer cette réalité de la société marocaine tout en montrant aussi les disparités sociales qui sont assez flagrantes à Casablanca. Et c'est vraiment réussi, donc, avec l'histoire de cette jeune femme, Sophia, qui a 20 ans, qui a fait un déni de grossesse et qui, dès le début du film, accouche alors qu'elle ne se doutait donc pas du tout qu'elle était enceinte. Là, dans l'urgence, il faut retrouver le père de l'enfant, il faut qu'il le reconnaisse, il faut vite organiser un mariage pour qu'on ne sache pas qu'ils ont eu des relations sexuelles hors mariage. Donc toute la famille s'y met parce que la famille a une réputation à maintenir. Et on comprend assez rapidement que dans la famille de Sophia, il y a des gens un petit peu haut placés et qu'ils font partie des classes sociales les plus élevées. Et que dans la famille de celui qu'elle désigne comme le père, on est plutôt dans les classes populaires. Donc on a vraiment ce choc des cultures qui est très intéressant. Et on est dans un film très nerveux, très tendu, où sur un court laps de temps, on doit les sortir de cette situation au plus vite avant que les autorités ne puissent les punir, les emprisonner. Moi, ça m'a pas mal rappelé le cinéma de Christian Mungiu et notamment 4 mois, 3 semaines et 2 jours, où on est aussi dans l'urgence, mais là pour une histoire d'avortement. J'ai trouvé que ça, c'était assez comparable donc, sur la nervosité de ce film. Et puis, une dernière chose, Jean-Pierre, je te préviens, tu ne dévoileras pas la fin de ce film, parce que,
j'inventerai
que c'est important de ne pas en savoir plus, mais sans vous dévoiler la fin, j'aime beaucoup le nouveau visage aussi de l'héroïne que l'on découvre sur la fin du film, qui montre qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de manichéen et que dans cette société, chacun essaye aussi de tirer son épingle du jeu. Voilà, là, je n'en dis pas plus.
Ça
mais...
donne trop envie. et tout ça en 1h20 en plus.
Et tout ça en plus en 1h25. Ouais. Voilà, Jean-Pierre.
Oui, je crois que d'ailleurs que c'est un film qui se joue, enfin l'intrigue se joue en 24 heures, je crois, hein, pas plus, sauf la séquence finale dont je ne devrais pas parler, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est
il
très
simple. Il se passe un petit peu après.
Oui, tout à fait. Mais c'est un film cruel, dur, glaçant, et très curieusement, moi, ce qui m'a frappé, cynique. C'est qu'on y parle très peu de religion, alors qu'on aurait pu penser que c'était la religion qui serait au premier plan. Là, c'est vraiment l'apparence, c'est vraiment la place dans la société, et c'est vraiment l'argent, quoi, tout ça. Tout ça font le père ou le faux père, bon, peu importe. Se marie parce qu'il vient du milieu très modeste et qu'il aura des sous. On ne dévoile pas exactement le fin mot de l'affaire, justement parce que le père est en cheville avec un grand entrepreneur qui va lui permettre d'agrandir ses affaires. Donc, on ne parle que d'argent. Et il y a des répliques glaçantes, notamment le marié, forcé un peu, qui crache au visage de Sophia, je ne t'aimerai jamais. Et quand on dit ça, moi, c'est vraiment très, très cruel. Et quand la sœur de la jeune fille lui donne des sous pour son ménage, il dit « Ah ben, je vais pouvoir me payer une pute de luxe ». Donc, ça donne le ton, comme ça, de ce film, qui est extrêmement dur, extrêmement cruel, et effectivement, joué par cette jeune fille, Sophia, je n'ai pas son nom, tu dois peut-être la voir, qui est extrêmement dure, et très touchante à la fois, qui fait, on peut dire qu'elle fait la gueule dans tout le film, sauf à la fin où elle sourit, mais pour de mauvaises raisons, je trouve.
Qu'on ne dira pas,
bien entendu. Non, c'est peut-être un des deux films vraiment à voir cette semaine, quoi, sûrement.
Ouais,
ou ce mois, plutôt.
C'est aussi un de mes coups de cœur du mois. Bon, donc, courez au cinéma Le Club, voir Sophia de Meryem Bembarek, qui est donc un de nos coups de cœur à Jean-Pierre et moi. On va changer encore une fois de genre et de continent avec une comédie américaine. Il s'agit de Thunder Road de Jim Cummings.
Hi there, are you Jimmy Arno?
I am.
Hi, I represent a local law firm. I'm here to serve you those papers.
From a law firm? Am I getting sued? What am I getting sued for?
Not my concern.
You won't be able to see her. She's just going to be living with me.
Hey, sweetie.
Fine, just keep going.
Okay. I'm sorry, honey. Do we have to go that fast?
No. Wasn't fast.
Look, man, I'm sorry we couldn't make it. I'm actually kind of glad you didn't.
Oh, yeah?
My mother was an extremely charitable woman. She loved Bruce Springsteen. She used to sing Thunder Road to me when I was going to sleep.
Everything go okay?
Everything went normal. It starts out and there's a harmonica.
The court has testimony that you practiced reckless behavior at funerals.
I lost my daughter tonight! Stay down! Stop! You're in my
bed! You fucking hit me!
You're in my pants! You ruined my life!
I never ruined your life!
You ruined
my life! I saw that goddamn video! Who danced at a fucking funeral?
In my culture, we do things that work!
What?
C'était la bande-annonce de Thunder Road de Jim Cummings qui raconte l'histoire de Jimmy Arno, un policier texan qui essaye d'élever sa fille tant bien que mal, incarné par Jim Cummings lui-même d'ailleurs. Et je vais laisser Adrien et Florence débattre ou pas d'ailleurs sur ce film. Adrien.
Ben, c'est un film, c'est vraiment la loose à côté de The Big Lebowski, c'est un grand génie, quoi, parce que c'est vraiment, mais la loose, alors au premier plan, ça commence, c'est la loose, et plus le film va avancer, et plus la loose va s'empirer. Il y a une BD américaine qui s'appelle American Splendor, illustrée par Crumb d'Harvey Pekar, qui raconte toute la... les petites choses quoi d'une petite ville de Cleveland tout ça, et c'est exactement ça quoi, c'est un petit flic du Texas, c'est vraiment minable tout ce qui lui arrive, et bon, le film est très beau, très calculé, mais j'arrive pas à savoir si j'ai adoré ou détesté. C'est à la fois très agaçant parce que il y arrive que des merdes et tout ça, et à la fois le réalisateur des fois fait un peu poseur et dit regarde comme je fais des beaux plans, regarde ce retournement de situation, tu t'y attendais pas. Et en même temps il y a des scènes de repas très belles, des scènes de relations avec sa fille qui sont magnifiques, sa femme va se barrer, il se fait retirer son insigne, bref. Et là, je vous raconte rien, en fait, parce que ce qui compte, c'est les sketchs, quoi. C'est presque un film à sketch avec des longs plans, et chaque scène est un morceau de bravoure et de jeu sur, voilà, on est dans la merde, et ben on va y aller encore plus. Voilà, alors, c'est un petit film indépendant états-unien qui a eu énormément de succès à Cannes quand il est passé à l'acide et il a eu le Grand Prix à Deauville. Mais moi, j'aime pas trop ce genre de film doux amer que Florence adore en général.
on va voir, Florence. Qu'as-tu pensé de Thunder Road ?
Je suis assez mitigée, mais positive quand même. Donc en effet, on va voir ce personnage qui est en quête de normalité tout au long du film. Il parle de du fait que ce qu'il a fait, c'était normal, qu'il agit normalement. Ce mot, il revient tout le temps, normal, normal, normal. Et il veut qu'une chose, c'est avoir une vie normale, ce monsieur. Et d'ailleurs, il a choisi d'être du bon côté, comme il le dit. C'est pour ça qu'il est flic, c'est pas par choix, c'est juste pour être normal, bien, etc. Sauf qu'en fait, il a beau se dépatouiller comme il peut, il est tout seul. Il est vraiment seul, et ça on le voit tout au long du film où il s'enlise, il fait tout pour s'en sortir, et il n'y a rien qui marche, et tout le monde lui fout la tête sous l'eau. Et du coup, il a beau se dépatouiller comme il peut, on le voit perdre pied, on voit sa vie s'effondrer comme des dominos, et c'est terrible parce que c'est de pire en pire. On voit même qu'il n'a absolument aucun soutien familial.
Et ça fait rire Adrien.
Oui, parce que même le fait d'acheter un scanner, pour lui, c'est insurmontable, quoi. La moindre geste qu'il fait, c'est terrible, quoi.
Ben oui, mais bon, il y a des gens comme
ça. Il a ému Florence, elle l'a pris en pitié.
Il y a un peu de ça, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais le pauvre, faut lui laisser un peu de répit. Et puis voilà, sa fille qui montre aucun signe d'affection, on voit qu'il fait tout. Il apprend à taper des mains vite pour pouvoir l'épater. Enfin bon, c'est des choses... Enfin bon, bref. Mais en effet, c'est peut-être un peu trop lourd quand même, au sens où, bon, même si, sans révéler la fin du film, moi non plus, tout n'est pas noir, et quand même, on respire un peu. Mais bon, après, c'est quand même un film qui est très dur, j'ai trouvé. Mais néanmoins, j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était intéressant. Et voilà, on voit aussi ben, le fait qu'on voilà, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et là, ça illustre bien ça, ce film.
Bon, c'est pas vraiment une comédie, donc si j'ai bien compris.
Pas pour moi, non.
Sauf si on a un humour un peu noir.
Sauf si on aime regarder les gens qui tombent.
Pas si vous nous avez donné envie d'aller le voir. En tout cas, il passe au Méliès. Hein, c'est Thunder Road de Jim Cummings. On enchaîne avec un film d'animation japonais. C'est Oko et les fantômes de Kitaro Kosaka.
Je m'appelle Oriko Seki, mais en réalité, tout le monde m'appelle Oko.
À l'auberge de sa grand-mère, Oko se fait de nouveaux amis.
Mais qui tu es ?
Tu arrives à me voir ? La belle histoire de Oko, l'apprenti aubergiste.
Faut que j'y arrive à tout prix.
Oko et les fantômes de Kitaro Kosaka, c'est donc un film d'animation japonais qui raconte l'histoire de la petite Oko qui apprend le travail d'aubergiste aux côtés de sa grand-mère et qui grandit en rencontrant d'étranges créatures, fantômes, créatures mystérieuses. Voilà, la bande-annonce fait très enfantine, moi je ne l'ai pas vue, mais Adrien va nous dire tout de suite ce qu'il en a pensé.
C'est le 154e film de l'année avec une petite fille qui passe du temps chez sa grand-mère et qui va rencontrer des yokai. Alors quand on a vu l'affiche, c'est pas du tout original quoi, et le film n'est pas très original non plus, c'est en effet ça. Du coup dans les trois premières minutes, elle perd ses parents et elle va être éduquée dans sa grand-mère, par sa grand-mère, et elle va se faire des amis qui sont des fantômes comme nous l'indique le titre du film. Alors j'ai été partagée entre l'agacement et la fascination parce qu'il y a des scènes qui sont magnifiques parce que sa grand-mère habite dans des thermes et du coup cette petite fille n'est confrontée qu'à des gens qui sont malades. Mais en même temps, j'ai été agacé par les dessins. J'ai pas du tout aimé le caractère design du film. J'ai pas du tout aimé l'animation. La seule péripatie, c'est aller faire des courses au centre commercial. Et il ne se passe absolument rien. Et voilà, et quand on pense que Totoro, avec un scénario encore plus simple que celui-là, était merveilleux et évoquait des choses merveilleuses, là, c'est vraiment... bof quoi. Et aussi un gros coup de gueule sur les critiques, il faut que les critiques ils arrêtent d'écrire dès qu'un animé japonais sort, c'est le nouvel héritier de Miyazaki, c'est le nouveau Ghibli.
Ouais, on dirait parce qu'ils connaissent que Miyazaki.
Ben, c'est ça, alors qu'en même temps que Ghibli, il y avait d'autres studios qui faisaient des trucs géniaux quoi. Regardez les Elden Ring de Gainax par exemple. Voilà, enfin bref, c'est un peu triste, ça m'a pas trop plu.
Oui, ouais. Effectivement, ouais. Vu ce que tu en dis, je ne pense pas que j'irai, ouais. Mais peut-être que Jean-Pierre va me donner extrêmement envie de le voir.
Non, non, j'ai peur de ne pas te donner envie de le voir, parce qu'effectivement, on pense effectivement à Miyazaki, on ne peut pas s'en empêcher, seulement Miyazaki, c'est magnifique, et ce film, le pire qu'on puisse dire, c'est qu'il est très laid. Alors, quand on voit un anime japonais, on a au moins envie de voir de belles images. Là, il n'y a rien. Il y a quelques travelling sur une ville, et tout ce film est fait en gros plan. Alors, un film d'animation avec des traits très stylisés, très sommaire, en gros plan avec ces filles ou ces personnages qui ont des yeux énormes, au bout de 10 minutes, t'en as marre. Surtout qu'il ne se passe rien, quoi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que dalle. C'est... Alors encore une fois, décidément, le Japon en ce moment, ce n'est pas dans ma besace, à fuir, quoi, vraiment.
Eh bien, non. Jean-Pierre et Adrien sont d'accord. Pour une donc, fois. Autant vous dire qu'il vaut peut-être mieux éviter Oko et les fantômes de Kitaro Kosaka. Mais si vous avez quand même envie de le voir, il passe au Méliès et à l'avant-scène de Saint-Égrève. Allez, on va finir avec le film attendu de cette dernière semaine de cinéma, en tout cas à l'heure où on enregistre. C'est Les Frères Sisters, le nouveau film de Jacques Audiard.
Quoi?
Ouais, on a bien merdé sur ce coup.
Fort dans un moment d'incertitude. SIS TVRS. Sisters. Comme des sœurs.
Nous deux, on est les frères Sisters. Toi et moi.
T'as pas peur de te reproduire, toi?
Les Frères Sisters, c'est le nouveau film de Jacques Audiard, réalisateur que je suis et que j'adore. Et j'avoue, je vous le dis, avoir été un petit peu déçue du coup, parce que j'en attendais beaucoup. Alors ça reste un beau western, hein, puisque disons-le, c'est un western. On suit les frères Charlie et Ellie Sisters, qui sont des sortes de tueurs à gages. Leur dernière mission est de retrouver un savant qui a inventé une formule chimique pour trouver de l'or dans les rivières. Ils doivent le retrouver, lui voler sa formule et le tuer pour le compte d'un homme qui s'appelle le Commodore, qu'on découvre à la fin du film. Donc on les suit dans une longue chevauchée de l'Oregon à la Californie, en sachant qu'entre-temps, ce chimiste rencontre un autre personnage, celui qui est incarné par Jack Giganail, qui lui aussi est apparemment un genre de chasseur de primes, mais qui va s'allier à lui momentanément. Finalement, les quatre hommes vont même se retrouver ensemble. Alors, je ne pense pas dévoiler beaucoup en racontant ça, puisque c'est surtout un film d'atmosphère, où vraiment on a des paysages époustouflants, où il y a cette lenteur qui caractérise le western dans plusieurs scènes. Avec certaines scènes de dialogue entre eux, où on découvre leurs états d'âme. Alors ça, c'est ce qui est un petit peu nouveau. Hein. On n'est pas dans le western spaghetti avec ces scènes-là. Et puis, des scènes aussi donc de chevauchée à rallonge, au cours desquelles on peut peut-être aussi éventuellement s'ennuyer. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu lent, un peu mou, surtout que l'intrigue est assez linéaire. Il y a peu de rebondissements et je pense que le suspense tient plus sur ses frères et leur psychologie, parce que les deux, enfin surtout le frère incarné par John C. Reilly se pose des questions, a envie de sortir de cet engrenage et de ce métier de tueur à gages, alors que le frère incarné par Joaquin Phoenix est beaucoup plus brut de décoffrage et beaucoup plus convaincu par ce qu'ils font. Donc voilà, je sais pas trop quoi en dire parce que j'aurais aimé le défendre, ce film. Je trouve que ça reste un beau western, mais moi il m'a manqué quelque chose. Voilà, Jean-Pierre.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé, sans dire que je suis absolument enthousiaste. Effectivement, le thème, c'est deux cavaliers dans la plaine. Quoi. On voit ses frères qui avancent, qui rencontrent les deux autres personnages au milieu du film ou au troisième tiers du film. Mais c'est quand même très bien filmé. C'est un film qui prend son temps. Ouais. Ça fait un peu penser à Hostile qu'on avait vu au début de l'année, dont on avait énormément aimé. Effectivement, c'est moins bien. C'est très difficile de dire pourquoi. Mais d'une part, il y a très peu d'action et les quelques rares batailles, gunfight comme on dit, qui ont lieu se passent dans l'obscurité la plus totale ou en pleine nuit. On voit juste l'éclair des coups de feu et c'est à peu près tout. C'est un parti pris certainement voulu par Jacques Audiard, qui a plus effectivement été intéressé par ses personnages que par l'action de western, effectivement, comme on peut en voir chez John Ford ou chez Sergio Leone. Et puis il a mis aussi un petit peu d'écologie, parce que c'est ce produit pour faire reluire l'or dans la rivière. On voit qu'au matin, il a tué des poissons, il a tué des petits mammifères à ses côtés.
Voilà.
Bah, c'est pas à la fois.
Non, j'ai eu peur. On peut pas
raconter le film, mais je vais vous dire la fin quand même. Non, je vais pas vous le dire. Non, quand on aime le western, je pense qu'on peut aimer ce film, même si effectivement on a une très légère déception, quoi. Mais c'est un film de plein air qui sent la poudre, c'est vrai, qui d'ailleurs n'a pas été tourné aux États-Unis mais en Espagne et en Roumanie. Oui. Mais on ne s'en aperçoit pas du tout à l'écran. Les paysages, c'est vrai, sont magnifiques. Oui. Les acteurs qui n'en font pas trop sont convaincants. Ils sont tous barbus, on les confond un peu. Bien sûr.
Ils sont très bien. Audiard dit d'ailleurs qu'il a été assez épaté par la manière de jouer des Américains, qui est apparemment assez différente de celle des acteurs français. Il trouve qu'ils incarnent plus, en fait, les personnages, que quand ils arrivent, ils sont déjà le personnage,
sorte. C'est très typique des acteurs américains qui se préparent physiquement au rôle et non pas intellectuellement comme peut le faire un acteur français. Oui, tout à fait.
Voilà, donc c'est les Frères Sisters de Jacques Audiard que vous pouvez voir au Pathé ou à la Nef. Toutes les séances sont programmées en VO à la Nef, à préférer peut-être pour la performance des acteurs. Pour finir cette émission, Jean-Pierre voulait nous dire un mot sur un autre film qu'on n'a pas pu évoquer, c'est Le Temps des Arbres, documentaire donc sur les forêts.
Oui, tout à fait. Oui, ben c'est un film à mettre en parallèle avec Un nouveau jour sur Terre, à part que là, on parle des végétaux et notamment des arbres et des forêts au lieu de parler des animaux. Mais c'est aussi un film cri d'alarme parce qu'effectivement, les forêts, il y a beaucoup de forêts en France. C'est des forestiers qui sont interrogés. Il y en a un qui dit, et c'est très typique, il dit on ne déforeste pas, on mal reforeste, c'est-à-dire qu'on plante des essences qui sont toutes les mêmes pour faire du bois et pour les couper au bout de 30 ans. Mais c'est un film qui, à la fois, fonctionne sur la beauté des forêts, les forêts sont toujours belles, et sur un grand nombre d'interviews de forestiers et de quelques marchands d'arbres, de marchands de bois, qui sont à bombarder à coups de merde. Mais il faut le voir, absolument.
Le Temps des Arbres, donc, est visible au cinéma Le Club. Et Jean-Pierre, pour finir, un mot sur le nouveau programme de la Cinémathèque dont tu fais partie.
Bah voilà, la Cinémathèque vient de s'ouvrir. Hein, c'est avec Le Grand Bleu, qui était un film quand même que tout le monde a vu, mais pour lequel on voulait attirer des gens. Il y a un programme très, très varié, cette fois, qui a été conçu par sa nouvelle directrice et par les gens qui l'entourent, hein, comme le cinéma Odyssée, sur des villes, sur des promenades à travers des époques et des villes, hein, des films de Jean-Daniel Paulet, par exemple. Il y a un cycle Billy Wilder, avec certains Len Shaw, bien entendu. Il y a un film exceptionnel qui s'appelle Le Rouge et le Gris, qui est un document sur Ernst Junger, qui était l'écrivain qui a fait la guerre de 14. C'est un film qui dure 3 heures et qui n'est pas manqué. Il y a un focus sur Hermano Olmi, Et d'autres que je vous dis pas, plein de choses à voir. Voilà.
On a compris que c'était très riche.
Et un top de science-fiction que je présenterai avec deux films de Jack Arnold. Voilà.
Quand même. On ira voir tout ça sur le site internet de la Cinémathèque
Absolument.
De Grenoble. Ou alors il y a des programmes papier que vous pouvez récupérer dans plein de lieux de culture. Adrien, je crois que tu as déjà fait des repérages dedans d'ailleurs.
Bah oui, notamment essayer d'aller apprivoiser Adieu au langage de film socialisme de Jean-Luc Godard qui passe dans le cycle Odyssée et deux jours le 4 et 5 octobre sur Tarik Tega, un excellent réalisateur algérien. Island et Révolution Zeng, deux films exceptionnels, très lents, très contemplatifs, mais vraiment très beaux. Allez-y absolument, c'est merveilleux. Et bravo à la Cinémathèque et à ses bénévoles qui font une programmation au poil.
C'est ce que j'allais dire, ouais. Avec des films rares qu'on aurait du mal à voir si la Cinémathèque ne les projetait pas. Adrien, un dernier mot pour finir en quelques secondes sur Le Poirier Sauvage qui t'a beaucoup plu ce mois-ci.
Ah oui, le film de Nouri Beycelan, à voir absolument. Là encore, hein, un film très lent où ça ne fait que parler, mais où notre perception change par rapport au personnage. C'est très beau, avec des plans, même séquences magnifiques. Et ils ont même réussi à me faire avoir de la compassion pour un imam. Du coup, c'est vraiment un film merveilleux.
Faire, voilà.
Moi, anticlérical que je suis, c'est vraiment un film merveilleux. Il faut absolument y aller.
Bon, eh bien, voilà, plein d'idées de sorties au cinéma pour ce mois-ci. Donc, guettez bien les programmes. Et nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Cinéquanon. Merci à tous mes chroniqueurs d'avoir été autour de la table. Et donc, rendez-vous fin octobre, le dernier mercredi du mois, sur les ondes de Radio Campus.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.